Cette parabole, sœurs et frères, me semble apporter des réponses précises, peut-être douloureuses, à un phénomène inquiétant, contemporain et occidental, que l'on nomme la déchristianisation ou la sécularisation de nos sociétés dites modernes. Alors, les sociologues emploient des termes très conceptuels pour constater qu'en Occident, les églises se vident. En France, les églises historiques, il y a des sondages, il y a des études sociologiques, des enquêtes, les églises en France, tant catholiques que protestantes, sont en pleine décroissance avec la crise des vocations, le manque de moyens financiers, le manque de présence, tout simplement. Les églises réduisent la voilure, ou au mieux, un peu comme les églises libres d'ailleurs, se maintiennent, quelquefois avec difficulté. C'est vrai qu'on parle en des termes très élogieux de la prospérité du mouvement évangélique en France, avec des images d'églises pleines à craquer, très actives dans l'implantation de nouvelles communautés. Mais la réalité est sans doute un peu moins reluisante. Mis à part, il est vrai, quelques, pardonnez-moi l'expression anglaise, quelques méga-church de style charismatique, elles ont émergé au début des années 2000 sur des modèles américains et aussi sur le savoir-faire de responsables très experts dans ce domaine de la croissance. En dehors de ça, il faut bien se rendre à l'évidence, les églises qui sont en pleine croissance aujourd'hui se trouvent dans les banlieues des grandes villes de France et elles sont issues, 9 fois sur 10, de la migration. Elle rassemble des fidèles d'une même origine ethnique, parlant quelquefois la même langue, venant du même pays et partageant aussi une même histoire de la migration. Mais pour la grande majorité des églises en France, en Europe, les temps sont durs et les effectifs sont à la baisse. Et la crise sanitaire n'aura certainement rien arrangé au passage. Les gens quittent les églises. Eh bien, cette parabole du bon samaritain nous explique exactement le contraire. Elle nous dit que ce ne sont pas les gens qui quittent les églises, elle nous dit que c'est l'église qui quitte les gens. Quand une église se vide, c'est parce que ses responsables religieux ne répondent plus aux besoins de ceux qui cherchent Dieu, qui ont besoin de Dieu. Fondamentalement, cette parabole nous dit que ce sont les prêtres et les pasteurs qui ont quitté les gens, et non les gens qui ont quitté l'église. Comme le sacrificateur et le lévite sont passés à côté de l'homme gravement blessé sans s'arrêter. Et Luc utilise un verbe grec pour dire que le prêtre et le lévite changent de trottoir, ils vont délibérément à l'opposé du chemin qui les mettait au contact de l'homme blessé. Littéralement, ils vont contre. Nous comprenons bien que ce ne sont pas les blessés de la vie qui ne viennent pas au culte. Ce sont les spécialistes du culte qui ne vont plus à l'humain en souffrance. C'est ce qui est dit ici. L'humain est là, sur notre route. Nous ne l'entendons plus, nous ne le voyons plus. Les églises se vident pour ces mêmes raisons. En France, elles s'éloignent des questions des besoins, des attentes qui taraudent le cœur des gens. Alors on pourra trouver scandaleux hein, cette absence d'ouverture aux besoins des gens. Mais attention, ne jetons pas trop vite la pierre. Parce que le vrai scandale n'est peut-être pas là où on le croit. Il n'est pas, je crois, dans le fait que le prêtre et le lévite aient évité le blessé. Je m'explique. Cela nous est tous arrivé un jour. Pas le temps, pas l'argent, pas la disponibilité, pas de besoin de tranquillité personnelle, un peu fatigué, trop de demandes autour de nous à satisfaire, nous avons détourné la tête de celui qui tendait la main. Et je crois qu'il ne faut pas trop se culpabiliser de ça. Souvent à peu de frais. Parce que on se culpabiliserait parce qu'on n'aurait pas réussi à éponger toute la misère du monde. Mais quand bien même nous faisons un geste comme aujourd'hui, par exemple, puisque c'est la journée du sel, ce geste restera une goutte d'eau dans l'océan des besoins, nous le savons. Et il faudrait toujours faire plus et se culpabiliser encore et encore. Non, arrêtons ça. Le scandale se trouve ailleurs. Il se trouve dans la raison précise qui pousse notre lévite et notre prêtre à changer de trottoir. Et c'est une raison religieuse. Ce n'est pas leur manque de compassion qui les éloigne du blessé. Le prêtre et le lévite ont une peur très particulière. Ils craignent que le blessé soit peut-être déjà mort. Et toucher un mort, eh bien, ça les disqualifierait pour aller faire le culte au temple. Ils n'auraient plus le droit de célébrer. Vous voulez que je cite la loi ? Allons-y. Celui qui touchera un mort et qui ne se purifiera pas souille le tabernacle de l'Éternel. Nombre 19, verset 13. Les deux hommes font donc ici preuve d'une vigilance indiscutable sur leur état de pureté. Ils sont dans la stricte observance de la loi. C'est au nom de la pureté rituelle qu'ils se détournent de la pureté éthique, celle qui consiste à aider son prochain quand il se trouve en danger de mort. Attachés à la lettre de la loi qu'ils ont divinisée, ils quittent l'humanité pour se mettre en conformité avec les exigences de leur religion. Voilà ce qui se passe. C'est à cause de leur attitude que la vie va finir par quitter le temple de Jérusalem et peut-être même d'expliquer pourquoi ce temple sera détruit. Mais la parabole contient aussi une autre particularité. L'homme qui s'arrête sur le chemin pour porter secours aux blessés n'est pas n'importe qui. C'est un Samaritain. Et là, c'est toute la vieille opposition biblique et fratricide qui affleure ici. C'est Saül et David, c'est le royaume du Nord avec Samarie qui donnera le mot samaritain, et opposé au royaume du Sud, Jérusalem, c'est Juda contre Israël, c'est les Samaritains hérétiques contre les Lévites, judéens, orthodoxes. Tout cela fait irruption dans la parabole de Jésus. Pour qualifier l'attitude du Samaritain, Luc, le rédacteur, prend soin de choisir le verbe qui est exactement opposé dans sa forme à celui qu'il a utilisé quelques instants avant pour décrire l'attitude du prêtre et du Lévite. Le Samaritain vient auprès. Il ne va pas contre, il vient auprès. Auprès de l'homme, il s'approche. Il se fait prochain du blessé. Alors que les religieux se sont éloignés, alors qu'ils étaient pleins du souci de leur pureté personnelle, le Samaritain était plein d'émotion, plein de compassion, plein d'humanité. Et devant cet homme à moitié mort, eh bien, la religion a vu la moitié morte, alors que le Samaritain, il a vu la moitié vivante de l'homme qui était là. Les premiers ont une peur maladive de la mort. Le second est un passionné de la vie. La voilà la grande ligne de fracture qui guette toutes les institutions et les églises en particulier en ce début de XXIe siècle. D'ailleurs, même les communautés de réveil dont nous sommes, en tant qu'Église libre, un fruit, une ramification, elles sont exposées à cette difficulté. Les églises évangéliques, leur histoire en témoigne. C'est très spectaculaire à observer. Vous avez la première phase du réveil, où les gens se massent dans des réunions pour prier, pour retrouver le chemin de la foi. Et après la phase du réveil proprement dite, et donc de la naissance de la première génération, eh bien, cette génération, après être née, doit apprendre à s'organiser. Et puis, le temps passe, on fait des enfants, on les éduque dans la foi, on consolide. Au lieu de vivre intensément par la foi, on commence à s'intéresser plus aux questions de transmission que de vécu. Ce qui n'est pas contradictoire, mais c'est un phénomène que l'histoire nous montre. C'est le problème de la deuxième génération. C'est difficile de rester éveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On devient vite des zombies d'ailleurs. Hein. Donc il faut qu'on apprenne à gérer le repos. Tout cela, et on s'institutionnalise, on hiérarchise, on établit des priorités. Le but n'est plus tellement de vivre l'instant de l'appel de Dieu et d'y répondre, mais de durer, de se maintenir, de faire la route. C'est le problème de la troisième génération, du réveil et des suivantes. Elle court le risque de passer à côté de l'essentiel. Comme ce jour-là, sur la route de Jérusalem à Jéricho, le prêtre et le lévite sont passés à côté de l'appel de Dieu à aimer leur prochain. Quand on ne sert plus le Dieu de la vie, mais quand on sert son propre système religieux ou communautaire, quand on place au centre de ses préoccupations sa dénomination religieuse, ses projets internes, ses besoins internes, c'est alors que le sel perd sa saveur. Et si le sel perd sa saveur, de quelle utilité sera-t-il ? Il sera bon à être jeté dehors. Quand l'Église se sent plus attachée à la rectitude morale qu'à la vie, à la lettre qu'à l'esprit. Quand elle se préoccupe plus de son orthodoxie, de sa conformité doctrinale, que de sa présence au monde, de l'accueil de tous, elle perd son chemin. Elle se perd elle-même, elle se vide de vie, elle se vide de ses fidèles. La situation délicate des églises en Europe en ce début de XXIe siècle pose bien des questions, mais qu'on ne mette pas ça sur le dos de la sécularisation. On s'achèterait là une conscience à peu de frais. C'est pas nous, c'est les circonstances. La question, frères et sœurs, est de savoir si nous sommes prêts à nous salir les mains, si nous sommes prêts à nous dérouter de nos destinées vocationnelles tracées d'avance et finalement creuses, pour retrouver l'intensité, les enjeux du réel, de la vraie vie, comme on dit, les défis de la vie ordinaire. Sommes-nous prêts à accepter, en fait, le dérangement, d'emprunter des chemins imprévus dont nous ne reviendrons jamais comme nous étions avant? Nous en serons transformés. Ça fait peur. Et ça crée de l'inhibition, quelquefois. Quand l'Église trouve plus fidèle d'obéir à la loi de l'institution plutôt qu'à la loi de Dieu, quand elle s'intéresse plus à sa survie qu'à la vie des gens, elle n'est plus en mesure d'être prise aux entrailles, prise de pitié face à la misère humaine. Elle approuve, mais elle ne s'engage plus. Et c'est elle qui meurt, sans même s'en rendre compte. Comme le sel nous y invite, le service d'entraide et de liaison, à sa façon aujourd'hui, eh bien nous sommes invités à nous approcher de tous ces petits bouts de vie qui tiennent à un fil, qui ont besoin de soins pour reprendre un peu de force, un peu de vie. On a parlé des femmes et on peut parler aussi des enfants, ces programmes de parrainage éducatif qui contribuent de façon décisive à changer certaines destinées. Quand on parle de la vocation de l'Église aujourd'hui, quand on s'intéresse à ça, je trouve qu'on emploie un langage très conceptuel, très spirituel, alors que Jésus nous demande ici d'être simplement humains, à l'image de ce Samaritain. Tout hérétique qu'il est, il a découvert en chemin où se trouvait le sens de sa vie, le cœur de sa vocation. Ce Samaritain est un homme qui a les yeux grands ouverts sur la vie. Il ressent les frémissements de l'humanité en souffrance. Il s'arrête, il pleure. Il agit. On ne cherche pas de juste cause à poursuivre. Non, ce sont les justes causes qui nous choisissent. Faudrait-il encore y répondre? C'est là que se trouve l'appel de Dieu pour nous. Et puisque nous évoquons le sel ce matin et ses actions dans les pays où la pauvreté frappe des peuples entiers, je vais terminer cette méditation sur une exhortation vive, prononcée au début du XXe siècle par un célèbre médecin pasteur théologien qui s'appelait Albert Schweitzer. Regardez cette tête. Il a construit avec sa femme Hélène des hôpitaux en pleine brousse gabonaise, à Lambaréné et ailleurs. Des hôpitaux qui sont encore aujourd'hui des endroits où l'on vient se soigner. Je cite. « Vous allez tâcher que l'homme ne périsse pas. Suivez-le, comme je l'ai suivi, et rejoignez-le là où les autres ne le trouvaient plus, dans la boue, la bestialité, le mépris. » Allez à lui et soutenez-le jusqu'à ce qu'il redevienne un homme. Jésus a soudé si étroitement l'une à l'autre religion et humanité, qu'il n'y a plus de religion sans vraie humanité, et que les devoirs de la vraie humanité ne se conçoivent pas sans religion. Amen.